Eh bien, chers amis, durant cet exposé, quand il sera question des Juifs, c'est dans la perspective religieuse que nous emploierons ce mot, et non dans une perspective raciale, bien entendu. J'espère qu'il n'y a pas de représentant de la LICRA dans la salle. Je tiens à pouvoir continuer de voter dans les 5 prochaines années à venir. Bien qu'il soit vrai que la religion juive s'adresse par essence au peuple juif et que celui-ci ait tendance à identifier sa propre race à sa religion. Mais pour nous, nous nous placerons résolument dans une vision catholique en considérant le point de vue de la foi et de son statut, du statut de la foi, face à une autre religion. La question de savoir si l'on peut être juif et catholique en même temps ne se pose pas. Quelqu'un qui professe la religion juive déclarera avec énergie qu'il n'est pas et qu'il ne peut pas être, en tant que juif, catholique. À l'inverse, la question de savoir si l'on peut être catholique et juif en même temps s'est trouvée posée. Elle s'est trouvée posée de fait par son éminence le cardinal Jean-Marie Aaron Lustiger, archevêque de Paris, lors de son accession au siège archiépiscopal de cette ville. Le cardinal a déclaré alors que, bien que catholique, il était toujours juif, et même que c'était pour lui la meilleure façon d'être juif et la meilleure façon d'être catholique. Cette déclaration s'est trouvée confirmée à maintes reprises par le même, et il a même écrit 2 ouvrages pour revenir sur cette question, dont l'un s'intitule « Oser croire » et l'autre « Le choix de Dieu ». D'autre part, on a pu noter dans la déclaration conciliaire du 2e concile du Vatican, la déclaration Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes, on a pu noter une nouvelle attitude prônée à l'égard du judaïsme qui n'est plus considéré comme déicide. La liturgie a également subi des modifications dans ce sens. Et plus récemment, le 24 juin 1985, un document publié par la Commission pontificale pour les rapports religieux avec le judaïsme, commission très officielle, donnait la directive suivante. Il faudrait que nous prenions notre responsabilité de préparer le monde à la venue du Messie en œuvrant ensemble, catholiques et juifs, pour la justice sociale, le respect des droits de la personne humaine et des nations et pour la réconciliation sociale et internationale. On voit ici la confusion du religieux et des droits de l'homme sans Dieu, mais ce qui est intéressant, c'est préparer le monde à la venue du Messie en œuvrant ensemble. On voit tout de suite la confusion, n'est-ce pas? Nous attendrions la venue du Messie comme les Juifs. Ainsi donc, lorsque le cardinal Lustiger entretient l'équivoque sur sa double appartenance, simultanément catholique et juive, il se trouve autorisé en droit à le faire par des textes qui semblent magistériels puisqu'ils émanent du 2e concile du Vatican et des commissions romaines qui l'interprètent. Et en effet, de l'un à l'autre, du cardinal au texte romain, le langage ne change guère, qu'on en juge encore par ce propos du cardinal concernant la mission des Juifs. Elle consiste, dit-il, à rester fidèle au judaïsme comme la mission des chrétiens est de rester fidèle au christianisme. Nous aurions ainsi, toujours selon le cardinal, une sorte de moyen terme entre les deux religions qui permettrait, dit-il, d'affronter les défis de l'avenir, principalement l'oubli de Dieu qui conduit d'une part, dit-il, au totalitarisme et d'autre part au scepticisme, et enfin à l'oubli qui conduit à l'oubli de la vraie dignité de l'homme, image de Dieu. Il y a là quelque chose de vrai, n'est-ce pas? C'est que l'oubli de Dieu conduit au totalitarisme, au scepticisme et à l'oubli de la vraie dignité de l'homme, image de Dieu. Mais où le cardinal pense-t-il trouver ce moyen, n'est-ce pas? C'est dans le fait que les deux religions concourraient ensemble à réaliser cette fin. telle serait la double vocation universelle du judaïsme et du christianisme. Ceci vient de son livre « Oser croire » aux éditions Centurion. On voit déjà ici comment le souci de l'adoration en esprit et en vérité s'efface devant un œcuménisme ambigu à vocation humanitaire. On songe alors au programme d'Assise. D'autre part, laquelle de ces deux vocations universelles absorbera l'autre? On ne le dit pas, mais la question peut être posée. Si nous, en tant que catholiques, nous savons d'ores et déjà que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, il est permis cependant d'éviter de sombrer dans une naïveté suicidaire en ne supposant pas d'emblée et par pure bonté d'âme que l'universalisme juif renoncera à absorber l'universalisme catholique. D'autre part, deux universalismes ne peuvent pas cohabiter. Si c'est la religion catholique qui est universelle, ce n'est pas la religion juive. Et inversement. Tels sont les éléments, parmi beaucoup d'autres encore, qui nous laissent à penser qu'une certaine judaïsation du catholicisme est en cours, sous le biais d'un œcuménisme libéral, de notre côté, et d'une volonté farouche, de l'autre côté, de nous réduire à merci. Cet œcuménisme libéral, on le sait, est basé sur un principe réducteur qui va s'amenuisant jusqu'à l'extinction de toute trace de christianisme, et qui consiste à s'en tenir au plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire à l'idée commune acceptable par toutes les religions. Cette idée commune, si ce principe de discussion, à partir de ce qui est admis par tous, est acceptable en philosophie, quand il s'agit, comme on le voit dans la dialectique aristotélicienne, par exemple, d'amener peu à peu le contradicteur aux conclusions qu'on veut lui faire partager, si donc cette attitude dialectique-là est permise, ce principe devient, lorsqu'il s'agit de la foi, lorsqu'il s'agit de la révélation, ce principe devient extrêmement périlleux, voire nocif, car il ne faut jamais laisser entendre que le dialogue puisse laisser de côté un iota de la foi. D'autre part, une discussion philosophique sur Dieu, son existence, ses perfections, si elle s'avère nécessaire, fructueuse pour la démarche de l'intelligence, ne peut cependant y cantonner le croyant. Le catholique, lui, doit affirmer, professer des mystères révélés qui dépassent les seules lumières de l'intelligence, qui exigent la conversion du cœur, qui réclament la soumission raisonnable de l'intelligence et l'adhésion de foi dans l'obscurité. Adhésion à des propositions que nous tenons pour vraies parce qu'elles viennent de Dieu lui-même, et non pas parce que nous les avons découvertes nous-mêmes. Enfin, on voit comment saint Paul, d'un point de vue purement pratique et pastoral, puisqu'il s'agit là de pastoral, on voit comment saint Paul, après avoir essuyé un cuisant échec à Athènes, parce qu'il a voulu faire de la philosophie avec des gens cultivés, s'est écrié à Corinthe, ville de débauche, qu'il ne prêcherait plus désormais que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et là, il a connu un vrai succès apostolique. Je crois qu'on peut dire que le commun dénominateur de l'œcuménisme Vatican IIien se résume en une seule proposition. Face au monde, face aux fausses religions et face aux nations, le refus d'être un signe de contradiction. Or, toute la mission de l'Église est basée sur le mystère de la croix, qui est un signe de contradiction. On sait par ailleurs, pour l'avoir observé depuis plus de 30 ans, à la lumière de nombreux auteurs catholiques, catholiques et perspicaces, que cet article de foi commun à tous n'est en fait qu'un vague vernis de religiosité déposé, étalé sur un épais capital d'humanisme athée pour constituer ce que Jacques Maritain appelait l'humanisme intégral. Est-ce que l'abbé de Nantes, qui a parfois des formules heureuses, appelait le masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Vous avouez que la formule est fameuse. Tel est le contexte général où s'inscrit cette confusion qui voudrait que pour être bon catholique, il suffise d'être un bon juif. Mais dans le cas qui nous occupe, celui du judaïsme et du catholicisme, on se heurte tout de même à une difficulté particulière. Si la confusion est en effet facilement dissipable entre le catholicisme et l'ensemble des fausses religions, que ces fausses religions soient déistes ou qu'elles aient des reliquats de christianisme, cette confusion ne laisse pas d'impressionner les esprits lorsqu'il s'agit du judaïsme. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que le judaïsme lui-même, et les catholiques libéraux à leur suite, entretiennent délibérément la confusion, l'amalgame entre le judaïsme mosaïque ou le judaïsme d'avant le Christ, antéchristique, et le judaïsme rabbinique ou le judaïsme post-christique, qui vient après le Christ. Un même vocable, le judaïsme, pour deux réalités différentes, voire radicalement opposées. La difficulté vient de ce que, si le judaïsme mosaïque, ancien, fut en effet la vraie religion jusqu'à l'avènement du Christ, le judaïsme rabbinique, quant à lui, ne l'est plus. Si nous sommes en conséquence les héritiers du judaïsme mosaïque, nous autres, catholiques, et si Abraham est bien notre père dans la foi, en vérité, nous ne sommes pas les héritiers du judaïsme rabbinique. Et les juifs spirituels d'aujourd'hui, eux-mêmes, ne sont plus les fils d'Abraham, ni nos grands-pères dans la foi, ni nos grands frères. Abraham n'est le père dans la foi que des catholiques. Depuis que notre Seigneur, s'adressant au docteur de la loi, leur a dit « Votre père Abraham s'est réjoui à la vue de mon jour. Et avant qu'Abraham fût, je suis. » Mon propos va donc se diviser en deux parties très distinctes, avant que de conclure. Dans la première partie, il sera question de savoir si le judaïsme mosaïque fut la vraie religion et dans quelle mesure. Nous regarderons alors la loi ancienne qui lui correspond. Dans la seconde partie, il sera question de savoir si le judaïsme rabbinique est toujours la vraie religion, et nous regarderons son rapport avec la loi ancienne d'une part et la loi nouvelle d'autre part. Alors, première question, le judaïsme mosaïque fut-il la vraie religion ? À cela, il faut d'emblée répondre que oui, le judaïsme mosaïque fut, pour un temps donné, la seule et la vraie religion, en raison de l'alliance que Dieu lui-même a établie avec son peuple, et renouvelé à diverses reprises, en particulier avec Moïse, sur le mont Sinaï, lorsqu'il lui a donné les tables de la loi. Cette alliance est appelée par nous, catholiques, l'ancienne alliance, par opposition avec la nouvelle alliance qui est définitive en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons là, avec la nouvelle alliance en notre Seigneur Jésus-Christ, l'explication dernière, ultime, qui donne sa vraie signification à l'ancienne alliance. Je veux dire qu'il est impossible de comprendre ce qu'est l'ancienne alliance sans référence à notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il est impossible de comprendre l'Ancien Testament dans toute sa plénitude sans référence au Nouveau Testament et à toute la tradition catholique qui enveloppe et explicite les Saintes Écritures. En toute chose, il faut regarder la fin. Et c'est toujours la fin qui donne l'explication ultime de ce qu'il a précédé ou de ce qu'il a préparé. Avec la fin, on a le pourquoi, et spécialement lorsqu'il s'agit d'une œuvre, d'une action, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une action divine. Mais cette fin, c'est ce que nous a expliqué M. l'abbé Troadec dans son sermon d'hier, de dimanche, cette fin, si elle vient en dernier lieu, elle est toujours indiquée au départ, par manière d'indice. Et elle figure bien dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, dès les débuts, lorsque Dieu chassant Adam et Ève du paradis, leur promet un rédempteur. Sous une locution énigmatique qui a cependant très bien été comprise par toute la tradition des docteurs juifs. Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne, elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre au talon. » Sa race, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui sont incorporés au Christ, la race de la femme. Et la tienne, la race de Satan, ce sont tous ceux qui se refusent au Christ, délibérément. Elle te brisera la tête, elle brisera ton orgueil. La tête, c'est le chef, c'est le lieu de l'orgueil. Et tu tâcheras de la mordre par le talon. Le talon, c'est le point névralgique. Le point névralgique de la Vierge, c'est nous autres. C'est l'Église. Ce sont ses enfants. L'Église y a toujours vu la promesse du Sauveur, du Messie, promesse confirmée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il s'agit là de la femme qui apparaît tout au début de la Genèse, quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas? Si vous voulez comprendre la Bible, il faut regarder le tout début et la toute fin. La Genèse et l'Apocalypse. Voilà. Il s'agit de la femme qui apparaît tout au début de la Genèse et qui réapparaîtra tout à la fin des Écritures dans l'Apocalypse. La femme revêtue du soleil, pense à Fatima. La tête couronnée d'étoiles, qui est celle-là même que la Genèse nous montre, écrasant la tête du vieux serpent. C'est l'Immaculée, c'est la mère d'une race renouvelée en Jésus-Christ, à laquelle s'opposent ceux qui sont de la race de Satan. Eh bien, mes chers amis, ce n'est pas seulement l'Église qui a pu connaître le mystère du Messie quand elle en a vu la réalisation, c'est également le judaïsme qui possédait des indices suffisants dans sa propre tradition pour le reconnaître lors de son avènement. Et si les docteurs juifs, sûrs de leur science, ne s'étaient pas refermés sur eux-mêmes et sur les traditions superfétatoires qu'ils avaient ajoutées à la loi pour maintenir leur prépotence religieuse et civique sur le peuple juif, ce sont eux-mêmes qui auraient couru pour l'adorer et le reconnaître. Voici ce que nous en dit le chevalier Drac, qui fut lui-même juif et rabbin. Il a été instruit dans la science du Talmud et de la synagogue. Ce rabbin, doué et prometteur, qui était l'espoir de ses maîtres, a vécu au XIXe siècle, au siècle dernier, sous Grégoire XVI et Pie IX, et il s'est converti au catholicisme. Je passe sur les épisodes de sa conversion. Il était marié, il avait des enfants. Les Juifs, voyant qu'il leur échappait, lui ont enlevé sa femme et ses enfants. Il a mis des années à les retrouver. Il s'est instruit en théologie à Rome. Il a fait des études ecclésiastiques. Il était docteur en philosophie, docteur en lettres, membre de l'Académie pontificale, et il fut bibliothécaire à la Sacrée Congrégation de la Propagande à Rome. Et le pape suivait attentivement ses travaux, les papes à l'époque. Il a laissé un ouvrage étonnant, bourré d'érudition, en deux tomes, que j'ai la chance de posséder, c'est un ami qui me les a donnés, et qui s'intitule « De l'harmonie entre l'Église et la synagogue » ou « Perpétuité et catholicité de la religion chrétienne ». Il y montre, dans le premier tome, comment la doctrine de la Sainte Trinité était déjà présente dans la synagogue. Mais voici déjà ce qu'il écrit dans sa préface. Plus nous remontons vers les sources de l'Antiquité judaïque, plus nous étudions la tradition véritable et non falsifiée de la synagogue quand elle était encore l'Église de Dieu, plus nous nous confirmons dans la croyance que la vérité du Seigneur est invariable. C'est-à-dire qu'il y a comme un fleuve continu, n'est-ce pas, du judaïsme à la vérité catholique. Pour lui, la véritable tradition de l'ancienne synagogue confirme la foi catholique contre toutes les hérésies survenues après, y compris le schisme d'Orient, y compris le protestantisme et autres. À propos du protestantisme, il montre par exemple que les principes protestants du libre examen en matière de connaissance des Écritures, ce principe n'existait pas sous la synagogue et qu'il y avait alors une tradition et une sorte de magistère pour veiller à garder le sens des Écritures. Il ajoute, ainsi que l'Église avant que l'Évangile fût écrit, la synagogue possédait d'abord une révélation divine toute de tradition. Vous savez, n'est-ce pas, que dans la Sainte Église, il est dit que la Sainte Écriture fait partie de la tradition. La tradition a commencé avant que les Écritures ne fussent rédigées, même si ce fut peu de temps. L'Écriture est enveloppée de la tradition. Eh bien, il en va de même dans la synagogue. La synagogue possédait d'abord une révélation divine toute de tradition, une loi purement orale. Lorsque plus tard, par ordre de Jéhovah, Dieu, le législateur de l'Horeb, Moïse, eut consigné par écrit les ordonnances sacrées, lorsqu'il eut donné le Pentateuque, la tradition orale restait et devait rester de nécessité. Car non seulement il faut qu'elle atteste à toutes les générations à venir l'authenticité du code divin, mais aussi il faut qu'elle serve en quelque sorte d'âme au corps de la lettre. Autrement dit, le texte de la loi eût été abandonné à la merci de l'esprit humain, toujours porté à s'égarer. Autrement, pardon, le texte. Autrement dit, ce que Drake nous affirme ici, c'est que la lettre tue et que l'esprit vivifie, et que c'était déjà vrai, sous l'ancienne alliance. Et c'est cette tradition orale qui maintenait la vigueur de l'esprit du texte. Il poursuit. La loi écrite pouvait être commise à la garde de toute la nation, mais l'enseignement oral, pour qu'il se conservât entier et pur, fut confié à un corps spécial de docteurs, sous l'autorité suprême de Moïse, toujours assis dans sa chaire, en la personne de ses successeurs. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Il y avait une sorte de pontificat. Cet état dura jusqu'à ce que la loi ancienne fît place à la loi évangélique dont elle était le type et la préparation. Et Drake donne toute la succession des noms de ceux qui se sont assis sur la chaire de Moïse jusqu'à l'avènement du Christ. C'est ce que nous apprennent aussi ces paroles que notre Seigneur répétait aux Juifs avant qu'il eût institué un sacerdoce nouveau chargé d'instruire toutes les nations de la terre. Jésus disait, les scribes et les pharisiens, disait-il, sont assis sur la chaire de Moïse. Observez tout ce qu'ils vous disent. Voilà tout ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils vous disent. Une autorité, et ailleurs, ces docteurs juifs, dit Drake, ne pouvaient être assis sur la chaire de Moïse qu'en qualité de dépositaire légitime de l'autorité du prophète législateur, c'est-à-dire celle de décider les cas douteux et d'expliquer la loi sainte d'après la tradition dont nous venons de parler. Et il cite aussi saint Hilaire de Poitiers, qui dit, un père de l'Église, « Outre la loi écrite, dit saint Hilaire, Moïse enseigna séparément les mystères les plus secrets de la loi aux 70 anciens institués dans la synagogue en qualité de docteurs, chargé spécialement d'en transmettre la connaissance. C'est de cette doctrine traditionnelle, enseignée dans la synagogue depuis lors et sans interruption, que Jésus parla quand il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse, observez tout ce qu'ils vous disent. » Donc, il s'agit, dit Drake, d'une autorité vivante, continuelle, ayant mission d'en haut de préparer l'enseignement divin conformément à la tradition, de perpétuer l'enseignement divin, et d'en maintenir l'intégrité, c'est une condition obligée de la vraie religion, qui doit être immuable comme son auteur. Il s'agit donc de la partie occulte de la science théologique. Elle traitait, dit Drake, qui a connu tout cela, qui a reçu cet enseignement, c'est ça qui est extraordinaire, qu'il a étudié, elle traitait de la nature de Dieu, de ses attributs, comme la théologie catholique, des esprits et du monde visible. C'était, si l'on veut, la philosophie divine ou la théologie spéculative de la synagogue, sa physique sacrée et sa métaphysique sacrée. Donc on y parlait de Dieu, de ses attributs, de la création et même de la Trinité. Il y a des indices, il en parle, de nombreux indices pour la Trinité, de l'incarnation aussi. Ainsi qu'en ont témoigné des écrivains comme Pic de la Mirandole et quelques autres auteurs, et des rabbins convertis. Des rabbins convertis à la lecture de la Kabbale ancienne. Vous connaissez l'histoire de la conversion du grand rabbin de Rome, Zoli, n'est-ce pas ? Le rabbin Zoli, qui était rabbin à Rome sous Pie XII pendant la guerre de 40. Et comme il pouvait être l'objet d'une rafle de la part de la police, Pie XII lui a proposé de le cacher au Vatican. Alors il est venu, Il a pu cacher sa famille et puis il est venu, lui, au Vatican, et le Pie XII l'a logé dans la bibliothèque vaticane. Et là, il a étudié le père Lagrange. Il s'est converti. Il a vu comme le père Lagrange montrait à l'évidence que le Christ accomplissait parfaitement l'Ancien Testament. Il s'est converti, il s'est fait baptiser sous le nom de Eugène, Eugénio, comme le pape. N'est-ce pas ? Quand il en est sorti, quand il a été baptisé par le pape, et quand il est sorti de là, il a retrouvé sa famille qui avait suivi le même cheminement de son côté. Toute sa famille s'était convertie. Et il a été l'objet de persécutions de toutes sortes, bien sûr, de la part des Juifs après. Donc, cette science était donnée oralement et réservée à quelques-uns parmi les plus sûrs des docteurs. Telle est, ajoute Drac, la cabale ancienne et véritable, qu'avec d'autres écrivains, juges compétents en cette matière, nous distinguons de la cabale moderne, post-christique, fausse, condamnable et condamnée par le Saint-Siège, qui avait fait l'objet d'une condamnation, œuvre des rabbins, qui ont également falsifié et dénaturé la tradition talmudique. Vous savez que le Talmud a été rédigé vers le IIIe siècle, n'est-ce pas ? C'est une, dans la perspective, bien entendu, d'échapper à l'emprise du christianisme. Alors déjà là, il y a eu une sorte de réification, de chosification de l'enseignement, et puis aussi des falsifications dans le même temps. Alors pourquoi m'être attardé si longtemps sur ce témoignage d'un expert ? C'est pour bien montrer que d'une certaine manière, et dans une certaine mesure, il y a bien continuité entre le judaïsme ancien et le catholicisme. Précisément dans la mesure où, comme le dit Drac par ailleurs, les justes de l'ancienne loi, seuls vrais israélites, n'attribuaient pas, comme la synagogue actuelle, au Messie qu'ils attendaient, la mission de ramener dans la Palestine notre nation exilée de la terre de promission et de la combler de la gloire et des biens de ce monde, mais celle d'opérer notre salut spirituel ainsi que l'a fait réellement notre Seigneur Jésus-Christ. Plus loin encore, il dit, ça c'est très touchant parce qu'il parle de lui en quelque sorte, l'Israélite converti retrouve dans l'Église, avec un charme inexprimable, les cérémonies et les usages de la synagogue, dégagés des pratiques superstitieuses introduites par le pharisaïsme, les passages des divines écritures qu'il entend réciter à tous les offices, lui rappelle sans cesse le souvenir de ses ancêtres jusqu'à l'antiquité la plus reculée. Ces paroles du sublime cantique de la très sainte Vierge, la gloire de la maison de David, retentissent jusqu'au fond de son cœur. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'a promis à nos pères Abraham et à sa postérité à jamais. Autre jour, c'est moi qui sonne la clochette ici pour l'office, n'est-ce pas ? On est quatre, n'est pas ? On va à l'office, n'est pas ? Alors je sonne la clochette et puis je frappe chez les abbés, puis je dis « Qui vient chanter les prières juives avec moi ?» C'est pas les psaumes ? Et il y a aussi un exemple frappant, vous connaissez le... Vous avez entendu parler du lion de Juda, n'est-ce pas ? La communauté charismatique, son fondateur, le frère Ephraim, qui est juif d'origine, qui a été passé au protestant, qui maintenant... pseudo-catholique, n'est-ce pas, qui est un homme très intelligent, a eu l'occasion de voir ce qu'était la messe romaine traditionnelle et de se la faire expliquer. Il en a été frappé au point qu'il a fait une sorte de supplique pour demander à Rome qu'elle la restitue à l'Église. Il a dit, il y a là tout ce que nous cherchons. Parce que lui a passé son temps à fabriquer des rites à partir des rites juifs, n'est-ce pas. Et il a retrouvé, il a dit finalement, tout est là, dans ce rite de romain traditionnel. Étonnant, n'est-ce pas ? Les témoignages comme ça. Je ne sais pas où il en est maintenant, mais enfin voilà. Voilà donc quelques éléments qui nous montrent la vérité du judaïsme ancien. Vérité confirmée par la théologie catholique lorsqu'elle veut nous montrer en quoi la loi ancienne, constitutive de cette religion révélée par Dieu, et la religion qui justifiait, n'est-ce pas ? Et en quoi elle sauva les justes de l'Ancien Testament. La théologie catholique nous dit que les juifs, que les fidèles du judaïsme mosaïque, furent sauvés en raison de la foi qu'ils avaient au Messie à venir, au Messie qui serait leur rédempteur. Donc leur salut était là, la foi au Messie à venir. S'ils avaient cette foi au Messie à venir, rédempteur, capable de les sauver, ils étaient sauvés. Et saint Thomas va jusqu'à affirmer que leur foi est la nôtre, est la même sous ce rapport au rédempteur. Mais il est promis et à venir pour eux, tandis qu'il est venu et ayant accompli son œuvre de salut pour nous. Donc, jusqu'à la venue du Christ, la foi au Messie à venir pouvait sauver. Mais je dis bien jusqu'à la venue du Christ. Sous ce rapport et avec cette précision, oui, le judaïsme était salutaire par la foi au Christ à venir, et donc il était la vraie religion. La vraie religion est celle qui accomplit ce qu'elle annonce, celle qui sauve ceux qui lui donnent leur foi. Ce sont ceux-là que notre Seigneur Jésus-Christ est allé chercher lors de sa descente aux enfers, ceux qui l'ont attendu et qui l'ont espéré. Deuxième point, le judaïsme rabbinique est-il encore la vraie religion? Ben, il n'y a plus de judaïsme mosaïque, il n'existe plus. C'est terminé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre qu'avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et l'effusion de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, donc avec l'institution de l'Église catholique qui est l'Église du Christ, le judaïsme mosaïque lui-même cesse d'exercer sa fonction de véritable religion. Le judaïsme mosaïque ancien, où la synagogue cesse d'exister en tant que religion, en tant que salutaire, parce que toute sa raison d'être est finalisée par le Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est le Messie attendu. Et ce Messie est venu. À plus forte raison alors, le judaïsme rabbinique, qui s'est substitué à l'ancien judaïsme et qui lui a fait subir de profondes modifications quant à l'esprit, à plus forte raison, est-il à considérer comme une fausse religion, quel que soit le reliquat de nobles coutumes, de vrais textes, de vénérables rites dont il puisse se prévaloir. On a aussi parlé du choix de Dieu, n'est-ce pas ? On a dit... Les choix de Dieu sont sans repentance. Eh bien oui, le choix de Dieu est sans repentance à l'égard du peuple juif, mais il faut s'entendre. Le choix de Dieu s'adresse au peuple d'où sera issu le Verbe incarné. C'est un choix qui est tout relatif au Christ, à son avènement, à son retour. Ce choix est tout entier réalisé d'abord dans la personne de l'Immaculée Conception, qui actualise en elle toute l'attente, toute la pureté de l'Israël spirituel. Et enfin, ce choix est inséparable de la personne du Christ et des propres choix du Christ. Il se réalise dans le choix des apôtres, qui sont juifs et qui sont les colonnes de l'Église, avec une puissance de grâce à nul autre comparable chez leurs successeurs, ainsi que le montre saint Thomas d'Aquin. Il y a chez les apôtres une puissance de grâce qui est celle de quasi-fondateur, une puissance incomparable, parce que c'est une grâce qui vient pour tous ceux qui viennent après. Saint Jean de la Croix étudie ça aussi. Qu'est-ce que la grâce d'un fondateur? C'est une grâce toute spéciale, toute particulière, parce qu'elle est riche de tout. La grâce est tout en qualité. Pas de la quantité, tout en qualité. Elle est riche de toute la grâce dont bénéficieront les enfants qui viennent après, dans une œuvre. C'est très particulier, une grâce fondatrice. Les apôtres, les 12 apôtres, nous dit saint Thomas, ont reçu une grâce incomparable. La Vierge Marie, déjà, qui possède dans son cœur immaculé toute la foi de l'Église, et les apôtres, tous ceux qui étaient présents à la Pentecôte, et puis saint Paul qui s'est joint à eux. Mais il y a un rejet très net de Jérusalem, de son peuple, qui seront détruits. Le Christ a pleuré sur Jérusalem, qui s'est dérobé à ce choix, un peu comme Adam et Ève se sont dérobés à l'instigation du démon, à la grâce de Dieu. En fait, et pour aller au but, le choix de Dieu est en tout état de cause un choix de grâce, c'est-à-dire un choix gratuit, auquel l'homme peut se dérober, y compris le peuple juif. Alors ce choix reste-t-il? Eh bien oui, c'est le Christ lui-même qui en est l'objet. Il s'est incarné dans la Vierge Marie, qui participe de ce choix, et dans ses apôtres par sa grâce. Ce choix subsiste aussi en espérance pour les Juifs, mais par leur conversion, par leur retour au Christ, ainsi que l'Église l'a toujours compris et enseigné à la suite de saint Paul. Saint Paul qui pleure sur son peuple et qui parle de lui à la fois avec colère, avec tendresse, en affirmant sa conversion à la fin des temps, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Donc le choix de Dieu subsiste, à condition qu'il se convertisse au Christ, parce que le centre, le noyau de ce choix, c'est le Christ. S'ils ont été choisis, c'est en vue du Christ. Le choix de Dieu, c'est qu'Israël se convertisse et qu'il revienne à Dieu en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur frère et leur Dieu. Revenons, si vous le voulez bien, à la loi ancienne. La loi ancienne peut-elle encore justifier, c'est-à-dire sauver, rendre juste devant Dieu? Eh bien, saint Thomas étudie minutieusement cette question au traité de la loi. C'était la foi au Seigneur à venir qui justifiait. Mais la loi ancienne est impuissante à justifier par elle-même. Et saint Thomas l'affirme et le montre par comparaison avec la loi nouvelle qui s'est substituée à l'ancienne et qui seule peut nous obtenir l'éternité bienheureuse. Alors, qu'est-ce que la loi nouvelle? Elle n'est autre, nous dit saint Thomas, que la grâce du Saint-Esprit. Et cette grâce du Saint-Esprit, la loi ancienne était impuissante à la conférer, cela étant réservé au Christ. La loi ancienne, celle du judaïsme avant Jésus-Christ, bien que bonne, nous dit saint Thomas, c'était le décalogue, les développements à partir du décalogue, les rites correspondants, bien que bonne, était imparfaite en ce sens qu'elle pouvait seulement contribuer d'une manière extérieure à l'obtention de cette fin, mais était incapable d'y aboutir par elle-même. Donc la loi ancienne était incapable par elle-même et par elle seule de justifier. Je vous ai dit qu'il y fallait la foi au Christ à venir, déjà. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile. La fin de la loi divine, dit le prince de la théologie, c'est de conduire l'homme à sa fin, la félicité éternelle. Or, tout péché fait obstacle à cette fin, non seulement les actes extérieurs, mais aussi les actes intérieurs. Il peut donc suffire à la perfection de la loi humaine qu'elle interdise le péché et qu'elle le pudisse, ce qui est une intervention extérieure. Mais cela ne suffit pas pour la loi divine qui doit mettre l'homme pleinement en état de participer à l'éternité bienheureuse. Autrement dit, la loi ancienne correspond ici à une loi humaine extérieure, n'est-ce pas, qui contribue d'une certaine manière, n'est-ce pas, à interdire le péché ou à le punir. Mais elle n'est pas en état de conduire, de soutenir pour accomplir la loi divine. Elle n'est pas en état d'animer de l'intérieur. En vérité, pareille tâche exige la grâce du Saint-Esprit, par qui est répandue en nos cœurs la charité, qui accomplit la loi. C'est donc la grâce du Saint-Esprit, diffusée dans le cœur, qui accomplit la loi. La grâce de Dieu est vie éternelle, dit en effet l'Épître aux Romains. Or, cette grâce, la loi ancienne ne pouvait la conférer, cela était réservé au Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont le fait de Jésus-Christ. C'est saint Jean qui dit cela au chapitre 1, verset 17. Il s'ensuit que la loi ancienne était bonne, mais imparfaite, comme l'indique l'Épître aux Hébreux. La loi n'a rien conduit à la perfection. Et saint Thomas ajoute dans une des solutions de cet article, on dit que la loi tuait, c'est saint Paul qui dit ça, elle ne conférait pas la grâce qui eût permis aux hommes d'accomplir ce qu'elle prescrivait ou d'éviter ce qu'elle interdisait. Il disait, elle est là comme pour notre châtiment, parce qu'elle nous interdit où elle nous recommande, mais elle ne nous donne pas ce qu'il faut pour l'accomplir. Seule la grâce permet de l'accomplir. Ainsi, il y a une sorte de purification radicale opérée par la loi nouvelle, qui est une loi de grâce sur la loi ancienne, qui est une loi de commandement et de précepte. Alors, ces commandements et ces préceptes restent, n'est-ce pas ? Mais nous avons la grâce qui nous permet de les accomplir. Alors, quelle est cette purification ? Qu'est-ce qui tombe et qu'est-ce qui reste de la loi ancienne ? Il y a le décalogue. Eh bien, le décalogue reste. Mais il constitue seulement une disposition naturelle au salut. Parce que, conforme aux inclinations de la nature humaine, il ne sauve pas. Seule la grâce du Christ sauve, en perfectionnant les commandements et en donnant la force de les accomplir. Il y a les préceptes moraux, qui sont eux aussi intégrés à la loi nouvelle, comme conformes à la raison naturelle. La loi nouvelle, donc, assimile le décalogue, assimile les préceptes moraux. Au même titre que les décalogues, si on veut, et comme leur développement. Il y a les préceptes cérémoniels, des cérémonies, qui avaient été fixés par Dieu à Moïse. Mais il y a deux choses. Ce qui en reste, dit saint Thomas, est comme transfiguré dans l'Église qu'il figurait. Par exemple, les psaumes, n'est-ce pas, trouvent leur vraie signification parce qu'ils parlaient du Christ, et maintenant, quand on les chante, eh bien, on chante le Christ, n'est-ce pas. Ils sont transfigurés dans l'Église. Mais, en réalité, les cérémonies anciennes sont caduques dans leur forme et dans leur contenu. Et le lion de Juda qui reprend des cérémonies juives. Pourquoi ? Parce qu'elles ne traduisent plus, dit saint Thomas, la foi intérieure du croyant, mais la trahissent en lui faisant espérer une réalité qu'il possède déjà, le Christ Sauveur et l'arche du salut qu'est l'Église. Vous voyez ? Donc les cérémonies juives ne peuvent pas être utilisées par nous autres, parce qu'elles trahissent notre foi, en laissant croire que nous attendons encore le Christ. Aussi, saint Thomas considère-t-il comme un péché mortel le recours aux observations cérémonielles de l'ancienne loi. Elles tombent devant ce qu'elles annoncent. Le Christ est venu, ces cérémonies tombent. C'est des cérémonies qui annonçaient le Christ. Il est venu, ces cérémonies tombent. Comme les cérémonies qui nous font aujourd'hui espérer le ciel tomberont quand ces biens seront présents. Il ne restera plus que le cantique des noces avec l'agneau. On voit bien là comment l'imparfait tombe devant le parfait. Il y avait enfin les préceptes judiciaires. C'étaient les statuts fixés au peuple juif dans l'attente du Christ. Ils ne furent en vigueur que pour un temps et sont évacués à l'avènement du Christ. On peut encore, dit saint Thomas, les observer sans péché, sauf si on en fait une obligation légale. Dans ce cas-là, c'est un péché mortel. Vous voyez ? Donc, on voit bien ici comment saint Thomas pose des limites à ne jamais franchir dès que le statut actuel de la foi est en jeu. On ne peut laisser croire que le Messie soit à venir. Or, c'est tout l'objet de l'espérance actuelle du judaïsme rabbinique. Le Messie est à venir. Et c'est tout l'objet de la confusion entretenue par le cardinal Lustiger et par les documents romains actuels. Avec les Juifs, nous attendons la venue du Messie. Eh bien non, il est déjà venu, il a déjà opéré son œuvre rédemptrice, il est le Verbe de Dieu, et il reviendra pour recueillir les fruits de son Église. La loi rabbinique est la nôtre, la foi rabbinique est la nôtre. Ce n'est pas la même foi. Il y a donc, dans les propos du cardinal, comme dans les documents romains œcuméniques, une confusion constante entre le judaïsme mosaïque, qui dans son attente du Messie fut la vraie religion, et le judaïsme rabbinique ou post-christique, qui attend toujours ce Messie, et constitue en cela la religion la plus délibérément fausse qui se puisse être, la plus radicalement opposée à l'essence même du christianisme, la plus obstinée dans l'erreur et l'aveuglement qui se puisse concevoir est la plus mortellement équivoque. Je dis cela sans embâge, en raison même de la noblesse qui a constitué cette religion dans l'Antiquité. Corruptio optimi pessima, la corruption des meilleurs est la pire. Elle est ici, cette corruption militante, active, intelligente, résolue. Elle ne prendra fin que par une conversion radicale un formidable coup de grâce qu'il faut souhaiter, attendre et provoquer par nos prières, car il ne faut pas attendre qu'Israël, qui a été si proche de la vérité, et parce qu'il a été si proche de la vérité, il ne faut pas attendre qu'Israël cesse de persécuter l'Église et cesse de s'opposer à toute renaissance de la chrétienté. C'est dans sa vocation même, aujourd'hui, que de s'y opposer. Moins que jamais, l'Église ne doit se laisser impressionner, et plus que jamais, elle doit réaffirmer plutôt, face à ses faux semblants, sa vraie mission de vérité et de salut universel. Seule la loi nouvelle, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit, peut opérer ce miracle attendu qu'Israël, enfin, concourt à l'extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui est attendu. Saint Thomas nous dit « La loi nouvelle est une loi intérieure ». Saint Augustin, cité par Saint Thomas, nous dit d'elle « Comme la loi des œuvres fut écrite sur des tables de pierre, la loi de la foi fut écrite dans les cœurs des fidèles. » À quoi il ajoute « Que sont donc ces lois divines écrites par Dieu lui-même dans les cœurs, sinon la présence même de l'Esprit-Saint ?» Eh bien, les Juifs n'ont pas d'autre vocation que d'être mus, eux aussi, par l'Esprit-Saint, au jour de leur conversion au Christ. Saint Thomas nous dit, la loi nouvelle justifie. La loi ancienne, et moins encore le Talmud, qui en est une perfection, ne justifie pas. Il n'est donc de salut pour les Juifs que dans la Sainte Église de Dieu. Saint Thomas nous dit, la loi nouvelle est définitive, et jusqu'à la fin du monde. La loi ancienne a donc connu une fin comme religion. On ne parle pas, bien entendu, du Talmud, qui n'a plus rien de commun avec la loi ancienne, qui était faite pour s'épanouir dans la personne du Christ. Le Talmud est comme une fusée désorbitée, sans cap. On retrouve là l'errance perpétuelle du peuple juif. Saint Thomas nous dit, la loi suppose la loi ancienne. Et c'est ici le point commun avec les juifs pieux d'aujourd'hui. En effet, la grâce ne supprime pas la nature. Il y a là simplement une inégalité de perfection, nous dit saint Thomas. Mais le juif s'est détourné de cette perfection qui était faite pour lui. La loi nouvelle accomplit la loi ancienne, nous dit saint Thomas, par la vertu de la passion du Christ. C'est la personne même du Christ qui en est la perfection. Il faut une conversion pour l'admettre. Seul le Christ pourra combler l'âme inquiète et assoiffée du juif, l'arracher à ses démons intérieurs. Saint Thomas, en dernier lieu, nous dit que la loi nouvelle dépasse la loi ancienne, comme l'arbre tout entier était dans la graine, nous dit saint Thomas. Voilà pourquoi le juif qui se convertit redécouvre par la même la loi ancienne en son germe, et il redécouvre sa propre vocation quand il passe au Christ. Qu'ils reconnaissent donc celui qu'ils ont tant attendu. C'est toute la grâce que nous leur souhaitons. Même s'ils ne veulent pas en entendre parler, ce qui, après tout, n'a aucune espèce d'importance, puisque c'est Dieu qui décide, à son heure, de ce qu'il a à faire. Ce que nous demandons simplement d'ici là, c'est que l'Église ne fasse pas semblant de se proclamer juive. Voilà. Si vous avez des questions. Oui.
Les Juifs affirment, contrairement à ce qu'ils ont dit,
Là, c'est une question historique. Moi, j'ai traité une question théologique, mais enfin, la question historique se pose. Il est vrai que l'Église a toujours été, sur ses gardes. Après ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas ? A toujours été sur ses gardes pour ce qui concerne son attitude à l'égard du peuple juif. Mais, historiquement, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut affirmer, c'est que c'est toujours elle qui les a protégés. C'est toujours elle qui les a protégés. Jamais elle qui les a persécutés. A l'inverse, on peut voir que les juifs ont été, à l'origine, ont fomenté beaucoup d'hérésies. Dans ma petite plaquette, là, hein, vous trouverez ça, mais on voit comment, par exemple, Luther est allé chercher chez les rabbins la science dont il avait besoin pour faire sa fausse religion. L'islam a été lui-même la création de docteurs juifs qui ont enseigné Mahomet, n'est-ce pas ? Donc il y a toujours eu une persécution sourde, larvée, réelle, de la part des juifs à l'égard de l'Église catholique, parce qu'ils ne vivent finalement qu'en fonction d'elle. Un peu comme les protestants qui protestent, n'est-ce pas ? Bon, mais les juifs ne vivent qu'en fonction de l'Église, pour être contre elle. Parce qu'elle empêche, finalement, pense-t-il, leur vocation universelle, précisément. Alors, ces accusations, il faut les réfuter sur le terrain historique, n'est-ce pas ? Pour la dernière guerre, par exemple, on voit comment Pie XII est intervenu. Moi, j'ai lu récemment le procès de Xavier Vallat, n'est-ce pas ? Qui était commissaire aux questions juives pendant la guerre. Xavier Vallat, qui était un catholique, qui était d'une famille... Son père était instituteur dans l'Ardèche et légitimiste, n'est-ce pas ? Lui-même était député catholique, député de droite avant la guerre. Et puis le maréchal lui avait demandé de s'occuper des questions juives. Il avait accepté et s'est efforcé d'appliquer strictement la doctrine de l'Église à leur sujet. C'est-à-dire, alors j'ai là le document, le maréchal Pétain s'était adressé à Rome, au Vatican, pour savoir si les mesures qu'il prenait à l'encontre ou à l'égard des juifs était conforme à la doctrine. Et la réponse est venue. L'antisémitisme de race, pas question, mais l'antisémitisme d'État pour se garder de certaines influences, oui. La réponse est nette, elle est là, j'ai un long passage, n'est-ce pas ? Et alors Xavier Vallat s'est défendu avec ça dans son procès, c'est-à-dire qu'il a assumé, plutôt que de se cacher comme on fait beaucoup d'autres, il a assumé tout ce qu'il avait fait. Et alors c'est amusant de lire ce procès, parce que c'est une suite de dépositions de juifs qui viennent dire, mais surtout, il nous a sauvés. Parce que, en obtenant qu'il y ait une politique juive de Vichy à l'égard des juifs, n'est-ce pas, il en avait le monopole, d'une certaine manière, contre les Allemands. Et il interdisait aux Allemands qu'ils y mettent le nez, n'est-ce pas. Et il n'a pas pu protéger tous les juifs étrangers, mais les juifs français, il a pu les protéger, comme ça. Parce qu'ils avaient un statut particulier, un statut qui les limitait, qui les corsetait un peu, mais qui les a sauvés. Donc l'histoire, vous voyez, là disons que c'est une question c'est une question d'histoire, là, il faudrait réexaminer tout cela de près. Mais l'étonnant dans ce procès de Xavier Vallat, c'est de voir tous ces juifs qui viennent au procès, et qui même d'eux-mêmes, sachant qu'il était en procès, sont venus témoigner alors qu'on ne les avait pas demandés. Alors pensez donc la rage du procureur et des accusateurs, n'est-ce pas ? De même Pie XII, n'est-ce pas ? Il y a la propagande officielle du journal Le Monde et tout le reste, et la LICRA, mais il y a eu aussi une attitude officielle de l'État d'Israël qui a remercié Pie XII. Et on a planté des petits arbres dans un jardin figurant tous les juifs qu'il avait sauvés, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, moi, qui m'importe surtout, oui. Oui. Pour ne pas déplaire aux juifs, c'est bien dommage parce que c'est un grand saint. Hermann Cohen, oui, qui a lancé relancé la dévotion au Saint-Sacrement, qui était un carme, qui était un grand musicien, pianiste, élève de Litz, qui s'est converti, qui est entré chez les carmes et qui a créé le Saint-Désert pour les carmes, parce que dans les statuts des carmes, normalement, il devait y avoir un Saint-Désert où ils devaient faire solitude pendant 2 ans de leur vie de carme. Lui, il l'a créé. Saint-Désert existe encore, là, dans le sud de la France. Bien évidemment, si on le canonise, ça embête les juifs, oui, bien sûr. Alors, on met ça de côté, pour faire plaisir. À qui, pourquoi, c'est ce que je dis. C'est ce que c'est la conclusion, n'est-ce pas? Que l'Église cesse de faire semblant d'être juive, ou... C'est... Oui. C'est des questions qui m'échappent un peu, là. Des questions qui m'échappent un peu, simplement... Je ne crois pas que les Juifs aient vocation à retourner sur cette terre. Je crois simplement qu'ils ont vocation de se convertir, c'est tout. Et de cesser de... Avenir. C'est ce qu'ils ont... Oui. C'est ce que... Non, mais pas les juifs spirituels. Oui, d'accord. Mais si on prend le cas typique de la foi juive, c'est la foi de la Vierge Marie, au départ. N'est-ce pas? Elle attend le Messie. C'est la foi du vieillard Siméon. C'est la foi de la prophétesse Anne. Il y avait donc toute une tradition maintenue. C'est ce que montre Drac, n'est-ce pas? Il y avait quand même toute une tradition de juifs spirituels qui attendaient véritablement un Messie rédempteur qui apporterait un salut spirituel. Et ceux-là l'ont reconnu. On voit bien. Dès qu'ils le voient, ils le reconnaissent. Ils étaient peut-être... Et il y a un cas qui est intéressant, c'est Nicodème, n'est-ce pas? Nicodème, le vieillard Nicodème qui se pose des questions. On voit ça dans le film de Nazareth, là. C'est magnifique de voir. On voit qu'il écoute le Christ. Il est très troublé parce qu'il entend, parce qu'il sait. Il sait. Alors il vient interroger le Christ, de nuit bien sûr, pour pas être vu, n'est-ce pas? Il vient l'interroger parce qu'il lui semble qu'il y a là des indices qui correspondent avec ce qu'il sait. Seulement, le Christ l'amènera encore plus loin, n'est-ce pas? Il faut renaître. Il faut renaître d'en haut. Mais probablement, Nicodème, qui avait été le maître du petit Saint-Jean, s'il était si troublé par l'enseignement du Christ, c'est parce qu'il y avait dans sa propre science des indices qui correspondaient avec ce qu'il entendait. Alors il veut éclaircir ça, il va voir le Christ. S'ils avaient fait ça, au moins. Seulement voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, on connaît la réponse du Christ aux disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Il fallait qu'il en fût ainsi. Voilà. J'avais une... Si, je ne veux pas abuser de votre patience, mais oui. Mais le Talmud, c'est quelque chose qui a été rédigé tardivement. Vous voyez ? Qui a été rédigé tardivement vers le... Si on prend le dictionnaire, le Robert, vous voyez, le Talmud comprend la Mishnah, la Gemara, etc. Bon. La Mishnah, dans le judaïsme, compilation des enseignements et des décisions d'un certain nombre de rabbins interprétant la Torah. C'était l'écriture, la Torah. Cette tradition orale fut consignée par écrit. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. Cette tradition orale fut consignée par écrit en hébreu tardif par Judas le prince au IIe siècle. Ou sous sa direction. Voilà. Et c'est là qu'il y a eu de profondes modifications. Parce qu'il fallait gommer tout ce qui pouvait évoquer la vérité du christianisme. On passe sous silence. Je viens de vous parler de toute une tradition qui est arrivée quand même jusqu'à ce rabbin-là, n'est-ce pas ? Passe sous silence. Oui.
Il transposait certaines leçons sur l'évangile, notamment l'évangile de Thoreau, qui s'appelle l'évangile de Thoreau.
Ah oui. Ça, je crois qu'il faudrait poser les questions à M. Couvert pour tout ça. Tout ça se relève de la gnose, en fait, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Une antenne. C'est pas les dents du Saint-Esprit, là. C'est vrai que les dents du Saint-Esprit sont des antennes, comme ça. Oui, oui. Oui, mais il y a toute une... probablement, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a toute une tradition gnostique qui puise dans le rabbinisme et dans la religion juive actuelle. Voilà. Enfin, le point de vue sur lequel je me situais était celui-là, c'était de montrer qu'il était impossible de proclamer que nous attendions, nous autres, catholiques et juifs, la venue du Messie. Enfin, d'abord, qui attendent-ils? Ça n'est déjà pas le même. Pour eux, oui, bien sûr, parce que... Et vous savez qu'il y a constamment des messies qui s'annoncent hein, chez eux. Oui. Ça revient régulièrement. Puis un jour, il meurt et puis il n'a rien fait. Oui. Oui. Je ne saurais vous dire. Simplement ce qu'en dit l'Apocalypse, ma foi. Ça reste très mystérieux. Oui, c'est un genre, l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est un genre. Il y a déjà Daniel, n'est-ce pas? Le prophète Daniel, et puis Saint Jean, qui utilise ce genre pour annoncer des choses très, très profondes, très mystérieuses, très... Oui. C'est un livre d'espérance, l'Apocalypse. C'est un livre d'espérance. Oui, ben justement, c'est ça, l'espérance. C'est un livre d'espérance. Il nous parle de la Jérusalem céleste, des noces avec l'agneau. C'est tout le pèlerinage de l'Église et des persécutions qu'elle subit ici-bas. Oui. Ah, mais oui, oui. Un songe d'Ézéchiel, oui. Ah, ben oui, mais tout ce qui annonce le Christ, tout ce qui. Enfin, il reste que. Nous devons attendre la conversion du peuple d'Israël, voilà, comme saint Paul l'annonce. L'attendre et y travailler. Mais le meilleur moyen d'y travailler, c'est de rester catholique, n'est-ce pas? Ça n'est pas de devenir juif. C'est ça que je voulais vous dire, en gros.
Exulte, 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 ex